Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui. VOA Afrique, édition du jeudi 28 octobre 2021. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Nanit Talani.
Nous commençons par les titres.
Au Soudan, arrestation d'opposants au putsch, forte pression à l'étranger.
La France donne du matériel militaire au Niger pour la lutte anti-djihadiste.
Des experts de l'ONU appellent la Centrafrique à rompre ses relations avec les paramilitaires russes de Wagner.
L'Afrique du Sud va déployer 10 000 soldats pour sécuriser des élections locales de lundi.
Et ne manquez pas notre page sport et la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
L'émissaire de l'ONU au Soudan a rencontré hier l'homme fort du pays, le général Abdel Fattah al-Burhan et le premier ministre limogé Abdallah Hamdok. Alors qu'à New York, le Conseil de sécurité peine à s'accorder sur le dossier soudanais, les arrestations se poursuivent à Khartoum. Abdourahmane Dia fait le point.
Les forces de sécurité ont affronté des milliers de manifestants décidés. Des heurts ont eu lieu dans l'est de Khartoum où des manifestants ont jeté des pierres. Dans la banlieue de Khartoum Nord, les forces de sécurité ont fait usage de lacrymogènes et de balles en caoutchouc. Les militants ont appelé à une manifestation d'un million de personnes samedi pour réclamer le transfert du pouvoir aux civils. L'un des leaders du plus grand parti du Soudan, la Houma, a été arrêté de même que d'autres manifestants. L'émissaire onusien Volker Perthes a rencontré le général al-Burhan pour lui réaffirmer les demandes des Nations Unies pour un retour au processus de transition et la libération immédiate de tous ceux qui ont été arbitrairement arrêtés. Il a aussi eu l'occasion de rencontrer le premier ministre Abdallah Hamdok dans sa résidence où il reste sous bonne garde. À New York, le Conseil de sécurité de l'ONU peine à s'accorder sur une déclaration commune. La Russie s'oppose à une condamnation ferme du coup de force. L'Union africaine a suspendu le Soudan et condamne fermement la prise de pouvoir des militaires et la dissolution du gouvernement de transition.
De son côté, la Banque mondiale a cessé son aide vitale pour le Soudan.
Le Niger a reçu hier des mitrailleuses lourdes et des véhicules tout-terrain offerts par la France pour aider à combattre les groupes djihadistes. Claire Morin-Gibourg.
28 pick-up et 71 mitrailleuses lourdes sont destinées au bataillon spécial d'intervention situé à Dosso dans le sud-ouest. La cérémonie de remise des équipements a eu lieu à Niamey en présence d'Alkassou Mindatou, ministre de la Défense, et d'Alexandre Garcia, ambassadeur de France au Niger, qui a salué le courage et la détermination des forces nigériennes face à des groupes terroristes. Monsieur Mindatou a remercié la participation de la France à la montée de l'armée du Niger dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Le Niger bénéficie aussi du soutien logistique et en matière de formation de la France et des États-Unis qui y ont des bases militaires. Grâce à un soutien de l'Allemagne, le Niger a inauguré mi-juillet un centre d'entraînement de ses forces spéciales à Tilia, dans la région de Tawa, dans l'Ouest. Par ailleurs, l'état-major français a indiqué qu'un poste de commandement avancé sera prochainement installé à Niamey pour contrôler les opérations conjointes conduites par la force Barkhane, les armées maliennes nigériennes et la force conjointe du G5 Sahel dans la zone des trois frontières.
Un groupe d'experts de l'ONU a appelé ce mercredi le gouvernement centrafricain à mettre fin à toute relation avec les paramilitaires russes, en particulier le groupe privé de sécurité Wagner, accusé de harceler et d'intimider violemment des civils. Les forces centrafricaines, épaulées notamment par des centaines de paramilitaires russes du groupe Wagner, selon l'ONU et la France, ont mené depuis le début de l'année une vaste contre-offensive contre des groupes rebelles. Moscou ne reconnaît officiellement que la présence de 1135 instructeurs non armés.
En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a autorisé le déploiement de 10 000 soldats pour sécuriser les élections municipales de lundi prochain. C'est ce qu'a annoncé l'Assemblée nationale hier, 3 mois après des violences sociales inédites, Jacques Aristide.
L'armée va épauler les forces de l'ordre afin d'assurer un environnement sûr et sécurisé pour le scrutin, d'après le Parlement sud-africain. Le déploiement est prévu pour une durée de 5 jours, à compter de ce vendredi. La police a déjà fait état de la mort de 8 personnes depuis le début de la campagne électorale, en majorité des candidats au poste de conseillers municipaux, même si le jour du vote se déroule généralement dans le calme en Afrique du Sud. Des heurts meurtriers et des pillages à grande échelle ont secoué le pays en juillet dernier, dans la foulée de l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma, trouble qui avait entraîné le déploiement de 25 000 soldats. L'ANC, au pouvoir depuis la fin de l'apartheid en 1994, lutte pour retrouver une popularité écornée par de multiples scandales de corruption, alors que sa base électorale, la population noire, vit dans sa grande majorité dans l'extrême pauvreté.
De l'insolite au Nigeria, la police islamique a arrêté un homme qui voulait se vendre aux enchères pour échapper à la pauvreté, ont indiqué hier des autorités locales. Un tailleur de 26 ans, Aliou Idriss, a été arrêté mardi par la police des mœurs à Kano après la diffusion de photos sur les réseaux sociaux le montrant avec une affichette indiquant qu'il était à vendre aux enchères au prix de départ de 20 millions de naira, environ 42 000 euros.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le laboratoire américain Merck a annoncé hier un accord qui pourrait permettre de diffuser largement dans les pays pauvres des versions génériques de son médicament destiné aux personnes contaminées par le COVID-19. S'il était autorisé, le molnupiravir deviendrait le premier médicament à prise orale destiné aux patients non hospitalisés montrant des symptômes modérés de COVID-19.
La fluvoxamine, un médicament antidépresseur, est en mesure de réduire les hospitalisations chez les patients atteints de COVID-19 et présentant des risques de forme grave, conclut un essai clinique publié mercredi.
L'Iran est prêt à reprendre les négociations sur son programme nucléaire à Vienne en novembre. Le vice-ministre iranien chargé du dossier, Ali Bagheri, l'a annoncé après une rencontre à Bruxelles avec le négociateur européen Enrique Mora. Le point avec John Linden.
J'ai eu une conversation sérieuse et constructive avec Enrique Mora sur les éléments essentiels d'une négociation réussie. Nous sommes convenus d'entamer les négociations avant la fin du mois de novembre. La date exacte sera annoncée la semaine prochaine, a déclaré dans un message sur Twitter Ali Bagheri, vice-ministre iranien chargé du dossier nucléaire. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, coordonnateur des négociations avec l'Iran, dit vouloir d'abord consulter les autres signataires avant d'arrêter une date pour la reprise des négociations à Vienne. Les États-Unis, qui se disent prêts à revenir dans cet accord, ont appelé l'Iran à faire preuve de bonne foi. La porte ne va pas rester ouverte éternellement puisque l'Iran continue de prendre des mesures nucléaires provocatrices dont nous espérons qu'il revienne rapidement à Vienne pour négocier et qu'il fasse preuve de bonne foi, a dit un porte-parole du Département d'État américain.
Par ailleurs, l'Iran peine à relancer son système de distribution de carburant mercredi au lendemain d'une cyberattaque sans précédent qui a fait réagir les plus hautes autorités de la République islamique, pointant du doigt une attaque venue de l'étranger.
La présidente de Taïwan a dit avoir confiance dans les États-Unis pour défendre son île face à la Chine sur fond de tensions croissantes entre Washington et Pékin autour du rôle de Taipei sur la scène internationale. La Chine a rejeté la proposition américaine d'accorder à Taïwan une participation significative à l'ONU.
S'exprimant par liaison vidéo, le président américain Joe Biden a répliqué à la Chine lors du sommet des pays de la région Asie-Pacifique auquel participe également le premier ministre chinois. Selon un enregistrement de ses propos obtenu par l'AFP, M. Biden a souligné que les États-Unis étaient profondément préoccupés par les actions coercitives et agressives de la Chine dans le détroit de Taïwan, qui sépare la Chine continentale de Taïwan.
Les tensions s'y sont accrues avec la multiplication des incursions aériennes chinoises à proximité de Taïwan, que Pékin considère comme une province devant être réunie, si nécessaire, par la force à la Chine. De telles actions menacent la paix et la stabilité régionale, a ajouté le président américain.
La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
Au Mali, le syndicat des travailleurs des banques, assurances, établissements financiers, microfinances et commerces ont lancé un mot d'ordre de grève pour 72 heures, ainsi que la Fédération nationale du pétrole. Les grévistes reprochent le licenciement forcé de 70 agents d'Ecobank pour raisons économiques dans le contexte de Covid-19 et ils réclament la régularisation des travailleurs intérimaires. L'Afrique francophone demeure la partie la moins endettée du continent, notamment du fait du dynamisme économique de la majorité de ces pays, selon les dernières statistiques du FMI. Parmi les pays africains les plus endettés figurent l'Érythrée, avec un taux d'endettement qui représente 175% du PIB, le Cap-Vert avec près de 161%, mais aussi Maurice avec 101%, ou le Congo-Brazzaville avec 85,4%. La France a signé mercredi avec la Côte d'Ivoire un contrat de désendettement et de développement, un accord visant à transformer une partie des dettes ivoiriennes en subventions à son propre bénéfice pour 1,14 milliard d'euros. Il s'agit du troisième contrat de ce type entre les deux pays, le premier ayant été adopté en 2012 et le deuxième en 2014, pour un montant cumulé de quelque 2,9 milliards d'euros entre Paris et Yamoussoukro.
Merci Claire. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. André Onana fait son retour en sélection camerounaise. Les Lions indomptables jouent leur qualification pour les barrages du Mondial à Qatar 2022 au Malawi. Puis à domicile face à la Côte d'Ivoire les 13 et 16 novembre, le sélectionneur Antonio Conceição a publié une liste de 32 joueurs préconvoqués pour ses rencontres avec deux grands retours, celui du gardien de l'Ajax Amsterdam, dont la suspension pour dopage prend fin le 4 novembre. On note également le comeback d'Ambroise Onyango, tout comme Junior Onana et Jérôme Onguené, de même que Léandre Tawamba. Le conseil d'administration de la CONMEBOL a rejeté la proposition de la FIFA d'organiser une Coupe du Monde tous les deux ans. Il n'y a pas de raison, d'avantage ou de justification pour le changement promu par la FIFA d'organiser la Coupe du Monde tous les deux ans, au lieu de tous les quatre ans, a déclaré l'instance du football en Amérique du Sud à l'issue de sa réunion mensuelle où la question était à l'ordre du jour. Les 10 pays qui composent la CONMEBOL ratifient qu'ils ne participeront pas à une Coupe du Monde organisée tous les deux ans, indique le texte. La CONMEBOL estime que le projet de la FIFA tourne le dos à près de 100 ans de tradition du football mondial, ignorant l'histoire de l'un des événements sportifs les plus importants de la planète. La Fédération internationale de football va tenir un sommet le 20 décembre avec ses 211 fédérations nationales membres, espérant un consensus pour instaurer le tournoi messieurs tous les deux ans. Ici aux États-Unis, mais cette fois-ci en football féminin, Carly Lloyd met fin à sa carrière internationale. L'une des plus grandes joueuses de foot de l'histoire a fait ses adieux à la sélection à 39 ans. Mardi, lors de la victoire 6-0 des États-Unis sur la Corée du Sud en match amical à l'Alliance Field de Saint-Paul, Minnesota, Lloyd, double championne du monde et deux fois médaille d'or olympique avec les États-Unis, compte 134 buts en 316 sélections. Elle fit ses débuts en sélection lors d'un match contre l'Ukraine le 10 juillet 2005. Joueuse FIFA de l'année à deux reprises en 2015 et 2016, elle a marqué les buts gagnants lors des finales des Jeux olympiques de 2008, lorsque les États-Unis ont battu le Brésil, et de 2012, son doublé assurant le sacre aux dépens du Japon. Ce fut un honneur de pratiquer ce beau sport. J'espère que vous savez que j'ai donné tout ce que j'avais pour chacun d'entre vous, a déclaré Carly Lloyd. Nous restons ici aux États-Unis pour finir avec du basketball. Avec vous, Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Miami et Brooklyn Nets 106 à 93, Washington et Boston 116 à 107, Charlotte et Orlando 120 à 111, Toronto et Indiana 118 à 108, Oklahoma City, Los Angeles Lakers 123 à 115, Miami et Milwaukee 113 à 108, Atlanta et la Nouvelle-Orléans 102 à 99. De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, la population de la province du Logone oriental ne bénéficie pas des retombées du pétrole tiré du sous-sol de cette partie du pays depuis 2003. Selon ses habitants, l'argent du pétrole profite à d'autres provinces et la ville de Doba se débat depuis toujours dans ses propres difficultés alors que 5% des revenus pétroliers devaient servir au développement de la zone productrice. André Kodmadjingar, notre correspondant à N'Djamena, s'est rendu dans la région.
Le Tchad est devenu producteur de pétrole depuis octobre 2003, mais la ville de Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental, située au sud du Tchad d'où jaillit cette manne, est citée parmi les provinces les plus pauvres du pays. 5% des revenus pétroliers alloués au développement communautaire n'ont servi à rien, estiment quelques habitants. Une goutte d'eau dans un océan de problèmes.
L'histoire de 5% là, il y a bien aussi des natifs du Logone oriental qui ont pris des crédits pour rembourser, hein. Mais ils disent que non, ça c'est leur pétrole, donc ils prennent, ils bouffent. Et personne ne les reproche. Ils sont devenus des intouchables.
Vous voyez vous-même, le courant a coulé depuis 2003. Il y a seulement que l'unique goudron ici à Doba. Est-ce qu'un jour, cette ville de Doba va changer encore?
Il y a un manque d'eau.
L'électricité, c'est rare. Par exemple, aujourd'hui, il y a l'électricité dans ce secteur. Mais dans notre quartier, non.
Si aujourd'hui, on est dans le noir, c'est que c'est les natifs eux-mêmes qui sont à l'origine de tout ça. Qui même là, amasse ces choses à sa guise et je mange, tant pis pour les autres.
Le vice-président du projet 5% des revenus pétroliers alloués à la zone productrice, Baïgoutou Irénin, n'est pas de cet avis.
Ça dépend de ce que les gens disent, mais abandonné par les profs aussi, je n'adhère pas. Est-ce que les décideurs sont les enfants du Logone oriental et qui n'ont pas construit? Je crois que c'est pour un état. Si le gouvernement décide de faire un projet, est-ce qu'il y a un enfant de Doba qui s'en est opposé? Moi, je pense que c'est un faux Doba.
Pour lui, les 5% sont des ressources additionnelles qui ne peuvent pas couvrir tout le besoin de la population du Logone oriental.
Doba, c'est la plus grande province du Tchad, avec 23 sous-préfectures, 52 cantons. S'il faut évaluer tout ce qui a été fait, je crois que le bilan est très mitigé. Deuxièmement, est-ce que depuis la création jusqu'à aujourd'hui, les 5% par rapport à l'argent du pétrole, là, combien ont été mobilisés? Parce que c'est d'abord là la question. Il y a plus de 4 milliards de crédits qui ont été placés pour lesquels sont partis carrément comme des fonds perdus. On s'est rendu compte que ceux qui ont pris sont devenus plus pauvres au statut d'avant tout ça. Il y a également des infrastructures qui ne devraient pas être réalisées sur les 5% de revenus pétroliers.
S'agissant des infrastructures sportives, les jeunes dénoncent les conditions dans lesquelles ils s'exercent pour représenter la province et une compétition nationale.
Regardez vous-même, ils ont fait seulement que les gazons, mais c'est pas bien. On se blesse par-ci, par-là dedans. Notre piste même, regardez, piste pour les athlètes.
Les pistes là ne sont pas praticables. Le fait de pratiquer l'e-sport même, c'est un peu difficile. On n'a pas les matériels sportifs.
Baïdo Djumbionan Piro, directeur du stade, estime que la construction de ce stade ne respecte pas les normes d'un stade moderne.
Dans quel pays du monde vous allez trouver un stade orienté dans le sens est-ouest? Il n'y en a pas. Vous prenez notre piste. Une piste normale fait 400 mètres. La nôtre fait 417 mètres. Un stade qui fait le sens SOS. On ne peut abriter un match international qu'en nocturne. Mais les projecteurs ne sont jamais allumés. C'est marrant, mais qu'est-ce qu'on peut dire?
À entendre les gestionnaires du stade moderne de Doba, construit en 2008, dont le coût global est estimé à près de 3 milliards de francs CFA, avec une capacité de 12 000 places, ne reçoit pas le crédit de fonctionnement depuis 2015. André Kodmadjingar, de retour de Doba pour VOA Afrique.
Tchad toujours, la plateforme coordination de la diaspora tchadienne a commencé hier à Genève en Suisse, ses assises qui s'achèvent aujourd'hui. Les membres de cette plateforme, des représentants de la société civile et du monde politique, disent échanger sur l'état de la transition au Tchad. Ils affirment vouloir adopter une charte de transition qu'ils soumettront au Conseil militaire de la transition et aux partenaires du Tchad. Selon eux, l'actuelle charte adoptée par les militaires concentre l'essentiel du pouvoir entre les mains du président de la transition. Yacouba Ouédraogo, adjoint à Genève, Évariste Djimazde, membre de la plateforme coordination de la diaspora tchadienne.
nous nous sommes retrouvés pour faire le point des 6 mois et quelques de transition pour travailler sur une proposition de charte de transition qui devait prendre en compte l'ensemble des préoccupations de la population tchadienne, mais aussi des partenaires du Tchad. Et je tiens à préciser que l'Union africaine, tout comme l'Union européenne, ont demandé à ce que le gouvernement de transition soit un gouvernement civilo-militaire.
Justement, en parlant de charte de la transition, le Conseil militaire de la transition a déjà proposé une charte.
Non seulement proposé une charte, mais a adopté une charte à la va-vite. Et cette charte consacre l'ensemble du pouvoir entre les mains du président de transition. Il y a le Conseil national de transition qui était un parlement, a été mis en place par décret. C'est ce que nous déplorons. Donc nous aurons souhaité que ça soit plutôt la conférence nationale souveraine que nous appelons de nos voeux, que nous avons inscrit dans la proposition de notre charte, que ça soit plutôt cet organe-là qui puisse élire des représentants du peuple, ce qui n'a pas été le cas.
Quand vous dites que l'essentiel des pouvoirs est concentré entre les mains du Conseil militaire de transition, à quel pouvoir faites-vous allusion?
Non seulement entre les mains du Conseil militaire, mais du président du Conseil militaire de transition. Je viens de donner l'exemple de la mise en place du Conseil national de transition qui réunit 93 personnes. Imaginez-vous que c'est le président du Conseil militaire de transition à lui seul qui a nommé les 93 personnes qui sont en charge de légiférer pendant cette période de transition. C'est le pouvoir législatif et c'est pas à l'autorité qui représente le pouvoir exécutif de nommer ceux qui doivent le contrôler. Il y a aussi des nominations à des hautes fonctions de la République. Et même un président légitimement élu ne peut pas avoir autant de pouvoir. À plus forte raison, un président qui n'a pas été élu.
La transition en place a déjà adopté une charte de la transition. Vous êtes en train de vouloir proposer une autre charte. À qui vous allez la soumettre?
Nous allons le transmettre au Conseil militaire des transitions, bien naturellement aux partenaires du Tchad, parce que ces partenaires ont demandé la révision de la charte. Un texte n'est jamais parfait. Donc, s'ils acceptent de négocier avec nous, forcément qu'on va trouver des compromis.
Vous avez bon espoir que votre charte va passer au niveau de la transition qui a déjà la sienne?
Si on n'a pas d'espoir, on n'allait pas se donner autant de la peine. Je vous dis qu'il y a des gens qui sont venus de l'Afrique, des gens qui sont venus de partout. Et depuis l'adoption de la charte et la mise en place du processus de transition au Tchad, les Tchadiens de par le monde se sont mobilisés. Donc c'est suite à cette mobilisation que ces assises de Genève ont lieu.
Afrique, Djamena. C'est 93.1 FM au Tchad.
Ici à Washington, le Swahili Village, un restaurant africain, a ouvert ses portes au cœur de la capitale fédérale américaine. Kevin Onyona est le fondateur et aussi le chef cuisinier de cet établissement. Originaire du Kenya, M. Onyona dit vouloir créer un pont d'éveil culturel entre le continent africain et le reste du monde à travers la nourriture et des opportunités diversifiées. Reportage de Blanche Sanou.
Pas de temps à perdre, le chef Kevin Onyona s'active dans la cuisine. Son restaurant va recevoir ce soir au moins une centaine de personnes pour marquer l'ouverture du deuxième établissement situé à Washington, D.C. Au menu, du jollof rice, suya à la viande de chèvre ou encore du poisson au goût unique dont seul le chef Kevin Onyona a le secret.
La base de notre cuisine est autour de la culture des différentes nations parlant le Swahili. Avec les échanges commerciaux, nous avons connu un mélange unique de nos assaisonnements. Il y a beaucoup d'approches traditionnelles également dans notre restauration.
Situé dans le quartier des ambassades, le Swahili Village de Washington, D.C. dispose d'un espace de 50 places prêt à accueillir des événements centrés sur l'Afrique et sa diaspora. Désormais, l'établissement veut se placer comme le lieu de rendez-vous incontournable des diplomates africains dans la région. Le chef Kevin Onyona est aussi le propriétaire de ce restaurant.
DC is the capital of the world.
D'ici à la capitale du monde, et c'était dommage que jusqu'à présent nous n'ayons pas de représentation de cette nature. Et en plus, c'est ici que nous accueillons des institutions comme la Banque mondiale, le FMI, la Maison Blanche et tout proche, le département d'État également. Naturellement, il était temps pour nous de pouvoir apporter notre présence ici à D.C.
En dehors de son expérience gastronomique, Swahili Village veut offrir à chaque emplacement un repère pour la communauté de la diaspora à la recherche de la culture et de l'histoire africaine. L'ambassadeur du Soudan du Sud, Philippe Diada Natana, était parmi les invités.
Pour moi, cet endroit me rappelle ma maison en termes de nourriture comme le poisson, la viande de chèvre. C'est presque similaire avec les plats au Soudan du Sud. Donc, à chaque fois que je viens ici avec des amis, j'ai l'impression que je ramène des invités à la maison. C'est l'adresse de référence pour moi quand je vais amener dîner.
L'ambassadeur du Togo à Washington, Frédéric Eden Ebe, n'a pas manqué au rendez-vous.
Nous sommes profondément satisfaits. Émerveillé par cette initiative prise par un Africain.
Portia Sim, une cliente américaine, dit qu'elle retrouve enfin la saveur gastronomique africaine qu'elle a connue à travers ses voyages sur le continent.
L'ouverture du village Swahili, quel frisson! Je veux que tout le monde sache que c'est un endroit où si vous voulez un dîner phénoménal de la culture africaine du Kenya, c'est l'endroit idéal.
Kevin Onyona, un entrepreneur kenyan qui vit aux États-Unis depuis une dizaine d'années, a atteint une grande maîtrise de l'art culinaire africain. Il continue de repousser les limites avec comme intention de créer 50 restaurants à travers tous les États-Unis.
La fête d'Halloween sera célébrée ce dimanche ici aux États-Unis. Et qui dit Halloween dit citrouille. Le volumineux fruit de forme ronde et de couleur orange est notamment utilisé comme décoration le soir de la fête. À l'approche d'Halloween, une visite dans un champ de citrouilles s'impose. Petite virée avec Titi Tran dans le comté d'Orange en Californie. Le récit est signé Jacques Aristide.
Du jaune orangé ou de l'orange carrément, ce sont les couleurs qui dominent en octobre. Et pour cause, les citrouilles sont partout, comme dans le parc régional d'Irvine, dans le comté d'Orange, en Californie. La citrouille est la grande vedette d'Halloween, une fête toujours célébrée le 31 octobre. À l'image de tant de traditions américaines, ses origines peuvent être attribuées à une communauté d'immigrants, dans ce cas, les Irlandais. À l'origine, bien avant les citrouilles, les Irlandais sculptaient des visages effrayants dans des navets pour éloigner les mauvais esprits. Établis en Amérique, ils ont fini par remplacer le navet par la citrouille. Gemma, une petite fille qui habite dans le comté d'Orange.
Sais-tu qu'à l'école, on apprend tout sur les citrouilles? Elles peuvent être bleues, oranges, rouges ou blanches.
Le comté d'Orange est la définition même du creuset culturel américain. Près de 70% de ses 3,18 millions d'habitants sont nés en dehors des États-Unis. On y parle de nombreuses langues, l'anglais, l'espagnol, le mandarin, le pashto, l'hindi, le coréen et le vietnamien. Le comté abrite l'une des plus importantes communautés vietnamiennes. Une habitante d'origine vietnamienne.
Nous sommes venus ici l'année dernière, mais il y avait moins de monde que cette année.
Les enfants aident leurs parents à choisir des citrouilles à sculpter à la maison. Halloween, ce sont des déguisements drôles qui font peur, des jeux, des citrouilles transformées en lanternes, et c'est surtout la chasse aux friandises. Akash Patel, un habitant d'Anaheim.
Il y a des citrouilles partout, dans le train, dans de la nourriture, à peu près partout.
Chaque année, un concours de la plus grosse citrouille a lieu dans le comté d'Orange pour les agriculteurs du sud de la Californie. Le mois dernier, l'un d'eux a décroché le premier prix de 3 250 dollars avec sa citrouille de 695 kilos. Mais rien à comparer avec le championnat mondial de la citrouille géante 2 semaines plus tard.
«
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seydoudia et de Nani Talani, Michel Joseph à la mise en onde et Nick Ivanov à la console. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.